Bienvenue sur La Voix des Oubliés, une émission qui laisse la place à tous ceux que l'on n'entend pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène bien trop longtemps nié, minimisé, parfois mal nommé, l'exploitation sexuelle des mineurs. À mes côtés, Anaïs Roch, juriste au sein de l'association Nos Ados Oubliés, et Madame Rostocker, procureure du parquet des mineurs de Marseille. Bonjour Madame Rostocker.
Bonjour mesdames.
Merci de nous faire l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui pour parler de l'horreur de l'exploitation sexuelle des mineurs. Pour en parler, nous allons commencer par une petite question qui concerne votre territoire, si vous le voulez bien. Donc, au niveau de Marseille, on sent qu'il y a une réelle mobilisation autour de ce sujet. Qu'est-ce qui, selon vous, a permis cette dynamique entre parquet, enquêteurs, ASE et surtout tous les partenaires de terrain ?
Sans doute, ce qui nous a aidés à Marseille pour cette dynamique, c'est la gravité de la situation. L'exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui s'est considérablement aggravé depuis quelques années. Il est difficile de donner une date, disons à partir de 2015-2016, et les mineurs victimes sont de plus en plus jeunes. 11 ans, 12 ans, ce qu'on ne voyait pas avant, on voyait des jeunes filles de 16 et 17 ans. Le phénomène est si grave que c'est l'avantage des juridictions qui sont confrontées à des choses très difficiles, c'est qu'il faut s'organiser, se mettre en branle, en combat pour lutter le plus possible contre ce phénomène qui est extrêmement, extrêmement agressif et grave et qui détruit nos enfants.
Bien, justement, en étant un petit peu plus profond sur la question, pour avoir eu le plaisir d'échanger régulièrement avec vous, je pense que vous êtes quand même à l'initiative de beaucoup de choses. Alors, il y a d'autres territoires, bien évidemment, qui sont mobilisés et qui agissent dans une même dynamique. Mais comme on est aujourd'hui sur Toulouse et que j'espère qu'on sera entendu par pas mal d'auditeurs chez nous, j'aimerais que vous puissiez nous parler un petit peu de l'exemple de ce que vous avez mis en place. La commune ou peut-être les victimes auteurs, votre mode de fonctionnement, par votre statut, là où vous en êtes aujourd'hui. En tout cas, ça nous intéresse de prendre exemple sur ce que vous faites.
Effectivement, c'est l'expérience de terrain qui nous contraint à mettre en place des outils parce qu'on se rend compte que chaque situation individuelle est unique et dramatique en la matière et qu'en même temps, les situations se ressemblent aussi. Ces mineurs, on trouve des facteurs communs chez ces mineurs. Et donc, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument sortir de notre précaré institutionnel et communiquer entre nous. C'est absolument nécessaire de communiquer sur les mineurs victimes et sur les auteurs. Et il faut aussi que on améliore le signalement. Par exemple, on a mis en place, mais cela existait déjà à Pontoise ou dans d'autres ressorts, ce n'est pas une innovation marseillaise, mais on a, disons, amélioré des fiches de signalement qui sont destinées aux professionnels, notamment aux foyers de l'ASE ou de la protection judiciaire de la jeunesse, des fiches de signalement pour qu'ils nous donnent des renseignements précis, parce qu'on était, on a toujours été destinataires de signalements, mais imprécis sur lesquels on ne peut pas travailler. Donc, ce qu'il nous faut, c'est les identités des jeunes filles. Alors, vous me verrez beaucoup parler des jeunes filles, parce que la prostitution des mineurs touche considérablement les filles. C'est un phénomène très genré. Les proxénètes sont, en général, très souvent des hommes, et les victimes sont très souvent des filles. Donc, il a fallu, des fiches de signalement précises, avec aussi les identifiants des réseaux sociaux des jeunes filles, leurs photos récentes, tous les éléments qui permettent aux éducateurs de soupçonner qu'elles font l'objet d'une exploitation sexuelle. Des choses précises sur lesquelles on peut partir en enquête de police. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place. On a mis en place aussi ce qu'on appelle une commission des mineurs, où on va, à l'instar, on s'est inspiré des COMVIF, les commissions contre les violences intrafamiliales, qui ont été mis en place grâce au Grenelle, grâce à l'action du gouvernement qui a impulsé beaucoup d'outils pour lutter contre les violences conjugales notamment. Mmh. Et comme tous ces outils en matière de violences conjugales, finalement, c'est ce qui nous manque en matière d'exploitation sexuelle des mineurs. Je pense qu'on va y arriver, mais les violences conjugales ont un train d'avance. Donc, le gouvernement nous a donné des outils, et c'est comme vif, c'est-à-dire des commissions où on va examiner avec des partenaires, justice, police, notamment, mais aussi services sociaux, des situations individuelles. Comment faire? Alors, pour les violents conjugaux, ce sont des commissions. Comment faire pour que monsieur ne finisse pas par tuer madame? Vous voyez? Donc, il faut vraiment se coordonner, échanger nos informations tout en respectant nos spécialités respectives, bien sûr. Et pour les mineurs, comment faire pour extirper ces enfants des réseaux, pas seulement de prostitution, mais aussi de trafic de stupéfiants? Comment faire pour les sauver de là? Tout seul au parquet, on n'y arriverait pas. Il nous faut des liens, des coordinations avec la police, les éducateurs, le département. Il faut qu'on soit ensemble pour étudier de façon très concrète chaque cas particulier qui ne peut pas se dupliquer. C'est du sur-mesure. Donc, on a fait des communes. On s'est du reste inspiré de Grenoble, par exemple, qui a été... avant nous, qui a institué cette commission, une jeune collègue placée avait été très offensive et a présenté ce qu'elle avait créé au sein du parquet de Grenoble. On s'est inspiré de ça et on l'a mis à notre sauce marseillaise, si j'ose dire, pour l'adapter à notre très grosse juridiction. Et on étudie tous les 2-3 mois des situations, une quinzaine de jeunes gens pour vraiment nous coordonner, vous voyez, ensemble.
Un travail essentiel, autant sur les jeunes filles que pour les auteurs, au final. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Anaïs.
Oui.
Nous, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous manque aujourd'hui cruellement. Et justement, vous êtes quand même aussi très, très incisive, si je dirais. Je regarde un petit peu les résultats du parquet de Marseille en condamnation. Vous n'avez pas de mal à nommer les auteurs ou les prostituées, en tout cas, sur la hauteur de ce qu'ils commettent, donc encore bravo.
Oui. Enfin, oui. Disons que c'est disons qu'il faut que chacun d'entre nous, dont les magistrats du reste, qui évoluent en même temps que la société, il faut que nous comprenions le phénomène. C'est auparavant, on ne comprenait pas bien les violences conjugales. Maintenant, on connaît la notion d'emprise ou de contrôle coercitif. Eh bien, on commence, je dois dire, à la connaître en matière de prostitution des mineurs. Du reste, comme vous l'avez fait, on parle d'exploitation sexuelle des mineurs maintenant. On commence à comprendre, et ce n'a pas toujours été le cas. J'ai entendu des collègues, j'ai entendu des éducateurs parler de contrats. De contrat entre un jeune garçon qui va assurer la sécurité d'une jeune fille. En réalité, il s'agit toujours d'une exploitation. Oui. Nous avons toujours au moins un proxénète qui est un exploiteur et au moins une mineure qui est une exploitée et il n'y a pas de demi-mesure. Quand bien même la jeune fille nous dit « je fais ce que je veux de mon corps, foutez-moi la paix, je suis libre, je suis d'accord et je reçois de l'argent », quand bien même elle nous dit ça, c'est qu'elle ne sait pas à quel point elle est victime de ce phénomène. C'est une exploitation. Et ça, c'est à nous tous de comprendre. Et du reste, il y a des formations de plus en plus au niveau de la magistrature, de la protection judiciaire de la jeunesse. Je sais que vous intervenez aussi beaucoup. Les associations dont vous faites partie sont... il faut être offensif pour d'abord comprendre ce phénomène. Qu'est-ce que c'est que cette forme de proxénétisme? Car là, ce dont je vous parle, c'est ce qui a flambé en nombre de façon effrayante, c'est le proxénétisme qu'on appelle de proximité.
Oui, ben justement, je pense que...
Les auditeurs savent bien ce que c'est exactement. Certains parlent de proxénétisme de cité. Si vous voulez, c'est... voilà, il y a au moins un proxénète, au moins une mineure, et ça va changer de forme tout le temps. Le proxénète va s'adjoindre deux co-auteurs, deux autres proxénètes, puis il va récupérer deux autres mineurs, puis il y a une mineure qu'ils vont perdre, par exemple, elle va à l'hôpital parce qu'elle est dans un sale état, ils vont en récupérer deux autres, et puis il y a un proxénète qui va se faire interpeller, ça ne les empêche pas de continuer, ils sont très agressifs, c'est un proxénétisme qui est protéiforme. qui sillonnent le territoire. Les proxénètes marseillais vont emmener les petites à Grenoble, à Besançon, à Toulouse,
oui,
pour les dérouter, pour qu'elles ne soient plus conscientes de l'endroit où elles se trouvent.
Et oui, la réalité, c'est qu'ils les exfiltrent de territoire. C'est aussi sous couvert des réseaux de narcotrafic. Il y a des dettes, il y a du chantage. Et ces jeunes filles ne vont jamais les accuser ou vont très rarement accepter de les nommer dans les auditions. Donc, toute la complexité de monter ces procédures et de voir au final des condamnations à la hauteur des faits qui ont été commis.
Tout à fait. Les victimes, hein, ces jeunes filles, il y a quelques garçons aussi, ces jeunes gens ne balancent pas leurs proxénètes.
Oui.
Et vont leur être même fidèles. Je dois dire qu'ils vont être admiratifs. Mmh. Les proxénètes vont être méprisants. Il suffit de se pencher sur des écoutes téléphoniques pour comprendre ce qu'ils en pensent de leur proie. Et c'est vrai qu'à Marseille... peut-être à force de souligner l'importance de ce problème et cette notion d'emprise, hein, totale, oui, et de polyaddiction, eh bien, les peines sont plus lourdes en matière de proxénétisme. Mm. Déjà, les affaires sont plus nombreuses. Il n'est pas rare de voir chaque semaine une affaire de proxénétisme qui va passer en comparution immédiate. Il y a des peines très lourdes. Vous m'entendez bien ?
Oui, on vous entend très, très bien.
Il y a des peines très lourdes, plus lourdes qu'avant, plus à la hauteur de l'extrême gravité des faits. Mmh. Auparavant, c'est à nous tous de comprendre ce qu'est ces faits qu'on reproche aux auteurs. Qu'est-ce que c'est exactement que de mettre à la prostitution pour faire 10 passes par jour des gamines de 13 ans en les assujettissant aux polyaddictions, notamment au ballon, hein, le protoxyde d'azote, c'est ça. Ouais. En les contraignant à faire des passes non protégées parce que ça se vend plus cher.
Oui, puis il y a aussi pas que non protégées. On peut constater sur certaines annonces, des fois, dans les caractéristiques, il faudrait qu'elles soient enceintes. Enceintes, c'est aussi un critère qui est demandé par les clients, donc les prostituées. On se rend bien compte que maintenant, plus c'est glauque et plus c'est demandé. Mais justement, peut-être, y a aussi l'aspect... moi, j'ai trouvé très, très riche ce que vous avez aussi initié, autant sur votre façon de fonctionner. Ce risque, je dirais, que vous avez pu prendre pour toutes ces jeunes filles victimes et victimes-auteurs. Donc, ces jeunes filles qu'on n'arrive pas à accompagner sous une forme de victime, mais quand c'est possible, sous une contrainte, même si c'est pour les protéger d'elles-mêmes, à un moment donné, vous avez aussi su prendre des décisions qui, à mon sens, sont des décisions de protection. Et je trouve que c'est dommage, en tout cas, que les magistrats soient un petit peu réticents, parce que oui, la victime, c'est une victime, bien évidemment, il faut l'accompagner. Mais il y a aussi ce côté auteur qui peut permettre, en tout cas, d'intégrer un dispositif un peu plus contraignant qu'un lieu d'hébergement, ce qui permet de la protéger d'elle-même et de tous ces pédocriminels.
Oui, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les victimes d'exploitation sexuelle sont victimes à 100%. Mmh. Elles n'ont pas de part de responsabilité. Ce sont même parmi les pires victimes qui soient, qui sont avilies, comme nous disions, 10 passes par jour, sous polyaddiction. Certaines se retrouvent à l'hôpital paralysées avec les ballons, hein, les protoxydes d'azote. Elles attrapent des MST. La drogue ne leur fait guère de bien, hein, la polyaddiction. Mmh. Et elles sont en dissociation cognitive, en dissociation de leur corps. Elles sont totalement déscolarisées. Hein. On n'est plus dans le domaine du tout du scolaire. Le mal-être, elles développent des troubles du comportement qui sont extrêmes. Leur préservation n'existe plus. Donc, ce sont des victimes à 100%. Quand elles commettent des infractions, ce qui est possible au regard du mal-être et des situations de déshérence, dans lesquelles elles se trouvent. Par exemple, elles vont violenter un policier qui s'intéresse à leur téléphone portable pour voir ce qu'il y a dedans, pour essayer de remonter le proxénète. Elles vont outrager, elles vont frapper un enfant, un autre mineur dans un foyer où elles se trouvent. Les infractions qu'elles commettent peuvent parfois, d'expérience, hein, être utiles, au sens où très très souvent, quasiment toujours, ces jeunes filles n'adhèrent à aucune mesure d'assistance éducative. elles fuguent des foyers en permanence et elles ne se considèrent pas comme victimes. C'est ça. Elles ne sont pas victimes dans leur tête et donc elles sont totalement. Elles n'adhèrent à rien. Elles ne respectent hélas que le ou les proxénètes. Mmh. C'est ça qu'elles respectent de par leurs troubles du comportement. Hein. Il faut savoir d'où, pourquoi. Hein. C'est toujours parce qu'elles ont subi des abus. Eh bien, ces jeunes filles, curieusement, je dois dire curieusement parce que je l'ai expérimenté, sont sensibles à la contrainte pénale. Est-ce que c'est si curieux que ça ? Elles ont besoin d'un cadre. Quand on les victimise, ce qui est tout à fait normal, ce sont les pires victimes qui soient. Vous voyez devant vous arriver après une garde à vue une jeune fille qui a des cernes jusqu'au menton, qui est dans un mal-être absolu, qui parfois est extrêmement maigre, qui perd ses cheveux, qui, vous voyez qu'elle va très mal, hein, sans être médecin, ça se voit tout de suite, qui est dans une situation horrible, physiquement, de mal-être. Eh bien, curieusement, la garde à vue ou le déferrement, quand elle commet des infractions, et après la mesure éducative judiciaire au niveau pénal ou le contrôle judiciaire, va avoir un impact sur elle. Mmh. C'est comme si elle avait un modèle de contrainte qui était parallèle au modèle de contrainte traite des êtres humains de leur proxénète et qui était le modèle de contrainte de la société. Et quand on ne fait pas que les victimiser, mais qu'on les met face à leurs responsabilités sur les infractions qu'on leur reproche, curieusement, elles peuvent s'en saisir. Et nous avons des exemples de jeunes filles, à la fois de jeunes filles qui ont témoigné. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter ça ? Pourquoi à 18 ans, tu es sortie de là ? Pourquoi tu as fini par signer un contrat jeune majeur avec le département ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et eh bien, témoignage d'une jeune fille qui dit bah, « Moi, c'était, j'en avais marre de décevoir mon juge, déjà, et mon éducateur, très bon mien, le juge, très bon mien l'éducateur. » Et alors, deuxièmement, c'était la garde à vue, le déferrement, c'était trop pour moi.
Ok.
Ce qui peut être étonnant quand on sait ce qu'elles vivent. Elles vivent des horreurs et cette garde à vue ne devrait rien être par rapport à ce qu'elles vivent.
Oui.
10 clients par jour, vous voyez ce qu'elles vivent, l'addiction, la misère humaine qu'elles subissent, et bien néanmoins, ça leur fait des réussites au sens où nous arrivons à les sortir de là. Mais c'est vrai par le biais du pénal qui est toujours dans l'intérêt de l'enfant, en fait.
Mmh. Oui, l'intérêt supérieur du mineur, il y est
mais
toujours.
En lien toujours avec c'est pour ça que ce n'est pas un risque, évidemment, parce que ce sont des victimes et on va se servir de...
Donc, on ne vous entendait plus très bien, mais on a compris que vous expliquiez qu'à ce moment-là, les assistances éducatives ne sont pas forcément des réponses qui peuvent suffire seules, que parfois, une décision pénale sur d'autres faits peut conduire, en tout cas, à ce que la jeune en devienne disponible derrière et en remercie aussi la réponse de la justice, puisque vous avez dit, dans les petits moments où on vous entendait très, très mal, que les jeunes filles ont pu... après vous expliquer ce qui leur ont permis oui. de s'en sortir. Donc, je trouve ça très intéressant. Anaïs,
oui,
je crois
oui.
que vous aviez une petite question pour Madame Rostocker.
Oui, alors je me demandais comment vous avez réussi à articuler la lutte contre l'exploitation sexuelle avec la politique pénale du parquet de Marseille.
Eh bien, cette lutte rentre tout à fait complètement dans la politique pénale du parquet de Marseille. Puisque au point de vue parquet des mineurs et des majeurs du reste, notre mission, notre devoir, c'est notamment d'interpeller tous ceux qui commettent des infractions de protéger au niveau du parquet des mineurs les mineurs, les enfants. Donc l'exploitation sexuelle, c'est un phénomène qui est si grave, qui fait en plein partie de notre politique pénale du parquet mineur et majeur. Parce que nous travaillons ensemble, avec tous nos collègues. Effectivement, c'est absolument essentiel d'interpeller les proxénètes, parallèlement d'exfiltrer, d'éloigner les mineurs, de les protéger un maximum. Les deux aspects se font absolument parallèlement. Le phénomène est si agressif qu'il nous faut, nous, être combatifs. On ne peut pas... On ne peut pas laisser faire les choses ainsi. C'est assez difficile. Hein. Tout ça est très difficile et demande une mobilisation. Et puis, c'est un sujet qui tient à cœur beaucoup, monsieur le procureur de Marseille, comme tous les autres procureurs, je suppose. On est très soutenus par notre procureur hein, dans cette lutte qui vise les proxénètes, les clients aussi, oui, et la protection des mineurs.
Est-ce que vous avez vu un traitement différent au niveau des peines effectivement prononcées par les juridictions marseillaises ?
Depuis quelque temps, oui. Depuis quelque temps, comme je vous disais, mais vous ne m'entendiez peut-être pas très bien, les peines sont plus lourdes. Mmh. Récemment, un mineur de 17 ans lors des faits a été condamné à 5 ans ferme, qui était le maximum de la peine qu'il pouvait avoir, qu'il encourait de par la loi. Des personnes majeures, des hommes majeurs sont condamnés à de plus lourdes peines qu'avant. Auparavant, c'est vrai qu'il y a quelques années, comme je vous dis, je fais le parallèle avec les violences conjugales il y a plus longtemps encore, les peines n'étaient absolument pas à la hauteur de la gravité de la situation. Peut-être parce que nous n'avions pas bien saisi ce phénomène d'emprise et que nous considérions que les victimes acceptaient.
Eh bien, merci pour ces explications. Si vous le permettez, on va faire une petite pause musicale de deux minutes et puis on aura peut-être une ou deux questions avant de clôturer et de vous permettre de repartir au travail.
C'est parfait. À tout de suite.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits. Les bateaux, ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court au devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondille de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la. La 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 la
de retour sur la voie des oubliés. Merci pour cette petite musique, Madame Rostocker, qui nous a permis de faire une pause avant d'aborder un sujet un petit peu plus difficile, je dirais. Anaïs avait quelques questions à ce sujet.
Oui, on a beaucoup parlé des proxénètes et du proxénétisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle a été l'évolution du traitement des clients par le parquet de Marseille ?
Eh bien, vous avez raison de vous intéresser aux clients parce qu'il n'y aurait pas de proxénétisme des mineurs sans clients. Et il y en a beaucoup. Quand je vous parlais de 10 passes par jour par mineur, à partir du moment où on a repéré environ 200 mineurs, repérés, hein, c'est pas le vrai chiffre, mais repérés et suivis 200 mineurs, je vous laisse penser le nombre de clients qui exploitent ces jeunes filles. Donc, il faut être aussi offensif pour les clients. Alors déjà, pour les clients de jeunes femmes majeures, le parquet des majeures a créé un stage de sensibilisation sur l'exploitation des majeures. Les jeunes femmes majeures sont également victimes, pas que les mineures. Hein. C'est pas parce que vous avez 18 ans et un jour que vous n'êtes plus une grande victime de l'exploitation sexuelle. Donc, il y a des stages de sensibilisation. Mais concernant les mineurs, lorsqu'il s'agit de mineurs, c'est un délit et il est de notre devoir d'envoyer ces personnes autant que faire se peut en audience ou devant le juge d'instruction, surtout en audience du reste. Hein, l'instruction, c'est surtout pour les proxénètes. Il y a quelques clients qui ont eu le désagrément de passer en audience de comparution immédiate et de se voir condamner à des peines notamment de prison ferme. Alors, ce sont des enquêtes très difficiles, contrairement à ce qu'on peut penser concernant les clients, parce que nous avons affaire à des personnes très retorses qui vont toujours dire qu'ils ne savaient pas qu'elle était mineure. Ça, c'est la phrase commune à tous les clients. Hein. C'est-à-dire que pour eux, c'est la dame quand elle a 12 ans ou 13 ans et quand elle vous reçoit en pyjama Winnie l'ourson ou avec ses grosses joues de bébé, c'est toujours une dame pour eux. Donc, il nous faut prouver, d'une part, qu'il y a eu une prestation sexuelle ou une tentative ou une proposition, c'est toujours nié. Hein. Donc, il faut les confronter à la réalité de l'acte et, en deuxièmement, prouver qu'ils ne pouvaient ignorer qu'elle était mineure. C'est tout un travail, c'est difficile. Cela demande des policiers motivés. Il y a des surveillances qui doivent être faites. La particularité de Marseille, c'est qu'il demeure du racolage sur la voie publique. Pas que des Airbnb, vous voyez, qui prolifèrent partout. Il y a toujours du racolage sur la voie publique, ce qui est devenu plus rare dans d'autres villes, mais toujours à Marseille. Et voilà, il faut qu'on soit offensif et on est en pleine politique offensive du parquet. Je dois dire que c'est un mauvais temps qui arrive pour les clients des mineurs. C'est notre cheval de bataille. On en a interpellé, on en a fait condamner. Il faut qu'on soit plus offensif et qu'ils soient bien plus interpellés qu'ils ne sont, car ces hommes de toutes sortes, de tous milieux sociaux, de tous âges, sont des prédateurs, vous voyez, qui recherchent des mineurs. Non, c'est pas qu'ils ne savent pas qu'il y a des mineurs, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, c'est notre politique, à l'instar de ce que nous demande notre procureur.
Bah, du coup, vous avez presque répondu à ma prochaine question, qui était justement quelles sont les priorités absolues pour vous à mettre en place pour faire reculer ce phénomène.
Eh bien, donc, les interpellations, ça c'est sûr, proxénètes, clients, mise en protection des mineurs, priorité absolue, il nous faudrait une plateforme nationale des lieux de placement, ça nous manque considérablement. Ça fait longtemps maintenant que la protection judiciaire de la jeunesse réclame une plateforme. Si vous voulez, quand on a un mineur, que ce soit au civil ou au pénal, et qu'on doit l'exfiltrer en urgence, on n'a pas de vision des places disponibles sur le territoire. Donc, il faut qu'on explose les frontières. On ne peut plus jouer de département en département. Voyez, je suis contente que vous, de Toulouse, vous m'invitiez. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que notre petite Marseillaise, on la mette à, par exemple, à Lille ou à Dunkerque ou je ne sais où. Voyez, et que il faut qu'on ait une visibilité et priorité absolue. C'est un problème qui dépasse le département, donc je sais qu'on pointe beaucoup du doigt le département. Je sais qu'il y a des dysfonctionnements, je ne l'ignore pas, mais le département et nous-mêmes, nous n'y arriverons pas s'il n'y a pas un Grenelle de l'exploitation sexuelle des mineurs, à l'instar de ce qui a été fait magistralement en matière de violence conjugale.
Exactement, on a l'exemple sur la... On a l'exemple sur la violence conjugale et même sur la mobilisation qui avait été mise en place autour de la radicalisation, puisque tous ces profils sont un petit peu similaires, hein, les psychotraumas ou les polytraumas comme dénominateur commun dans ces thématiques-là s'entrecroisent.
Oui.
Donc, prendre l'exemple sur ce qui existe déjà, vous avez tout très bien résumé, Madame Rostocker, et je vous en remercie. Si vous aviez un petit message à passer aux familles, aux professionnels ou autres, que serait-il avant que l'on ferme l'antenne de cette interview?
Alors, aux familles, éduquez vos garçons. Apprenez-leur à respecter les filles, toutes les filles. Hein. C'est absolument... On trouve là, chez ces hommes, chez ces proxénètes, un immense mépris des filles qui ont des relations sexuelles, même si c'est eux qui leur ordonnent de le faire. Hein.
Oui.
Donc, respectez la jeune fille, qui qu'elle soit. Pour les jeunes filles, qui ont subi un traumatisme, surtout de nature sexuelle dans leur enfance, qu'elles sachent qu'il peut y avoir des troubles du comportement à l'adolescence. Il faut que ce soit, si vous voulez, c'est pareil, le plan harcèlement scolaire, il faut que dans l'éducation nationale, on forme les enfants, qu'on leur apprenne que l'adolescence, c'est quelque chose de dur à vivre et qu'on peut avoir des troubles du comportement et faire l'objet d'un prédateur, notamment quand on a été agressé soi-même enfant, vous voyez?
Oui.
Et puis, eh bien, message à tous mes collègues et à la chancellerie, il nous faut un Grenelle de l'exploitation des mineurs. Nos enfants en ont besoin, ça peut toucher tous les enfants. Vous voyez, tous les enfants peuvent être abusés dans leur famille, tous les enfants peuvent subir aussi un divorce, tellement douloureux pour les parents qui ne voient plus leur enfant et l'enfant va dégoupiller à l'adolescence. Hein. Tous les enfants peuvent, ça concerne tout le monde. Et quand bien même ça ne concernerait que des enfants précarisés, qu'on voit beaucoup, de toute façon, ce sont des enfants qui ont tout notre intérêt, qu'on doit respecter, pour lesquels on doit se battre. Et on n'y arrivera pas en se tapant les uns sur les autres. Le département n'a pas fait ci, pas fait ça, la justice. On y arrivera ensemble et avec une politique gouvernementale aussi efficace et belle qu'en matière de violence conjugale.
Eh ben, merci beaucoup, merci pour ces mots de clôture. Puis vous l'avez très bien rappelé, ça peut toucher tout le monde. Ce phénomène est tentaculaire et transversal et on a parlé beaucoup d'assistance éducative, mais il n'y a pas que des jeunes filles qui sont sur des mesures d'assistance éducative.
Non.
Donc merci de l'avoir rappelé en tout cas. On a féminisé beaucoup nos propos, mais il y a tellement plus de filles que de garçons, mais on n'oublie pas que ça touche aussi, bien évidemment, des jeunes garçons. Alors, je vous remercie, Madame Rostocker. Merci, Anaïs, pour votre présence. Et je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuation. Et surtout, ne lâchez rien.
On ne lâchera pas et jamais. Merci à vous, mesdames.
Merci, madame.